Esoterisma experimental. Avec Richard Glenn. Bonjour, nous sommes rendus à notre 9e rencontre. Nous parlons aujourd'hui du phénomène extraterrestre. La semaine dernière, on abordait l'aspect plus négatif, on pourrait appeler les extraterrestres malveillants, qu'on a associés aux démons chassés dans les entrailles de la Terre. On a parlé de la Terre creuse et de leur rôle de troubler l'être humain au point de peut-être essayer de lui voler son âme. D'ailleurs, il y a un psychiatre de l'Université du Wyoming qui était venu nous expliquer, Leo Sprinkle, qu'il avait écrit d'ailleurs le livre Soul Catcher, les voleurs d'âmes. Ces êtres qu'on considère comme les petits gris avec des grands yeux noirs, puisqu'ils vivraient à l'intérieur de la Terre où il y a moins de lumière, leurs yeux sont devenus beaucoup plus grands, un peu comme des hiboux finalement. D'ailleurs, les hiboux, on les utilise souvent pour représenter ce fameux phénomène des intraterrestres. Mais aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus optimiste. D'ailleurs, cette émission est présentée au cours de la semaine du jour de l'an 2015. Alors, la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Sortons de l'intérieur de la Terre pour arriver au plein jour. Et comme la semaine dernière, j'ai avec moi un invité, un ami, qui connaît très bien le phénomène extraterrestre. Et des fois, je me demande si c'est pas un ufologue, on peut pas dire ça. Mais c'est un type très érudit dans le dossier du phénomène extraterrestre, car il est ici entouré de piles de livres sur le sujet. Bonjour, bonsoir, Pierre-Charles Dubreuil.
Oui, bonjour, Richard. Effectivement, j'ai beaucoup de livres parce que moi, je suis assez lecteur quand même. Et ça me fait penser à un des invités que tu as reçu à tes conférences du dimanche, Monsieur Christian Comtesse, qui organise les repas ufologiques en France et qui disait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'ufologues de clavier. Et il y a Richard Dolin qui fait à peu près le même commentaire en disant qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'ufologues qui font du copier-coller grâce à l'Internet. Et puis moi, ben, comme je lis, ben, je suis je suis pas un ufologue, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse au sujet et qui a lu beaucoup sur le sujet et qui essaie de prendre un peu de recul. Je regarde ça plutôt d'un aspect sociologique ou anthropologique. Et c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres, et surtout des livres comme un qui avait été intéressant à l'époque de Bertrand Mayhurst, qui avait écrit « Science-fiction et soucoupe volante », où il faisait des comparaisons entre les récits de science-fiction des années 20, 30, 40 et les récits de contact avec les extraterrestres. Puis on voyait qu'il y avait certains liens à faire peut-être, même si en analysant très à fond, on se rendait bien compte que c'était pas du tout la même chose, que le phénomène extraterrestre semblait être quelque chose, selon moi, de vraiment réel et différent des récits de science-fiction. Mm-hmm. Et aussi, il ne faut pas mélanger la science-fiction et ce qu'on appelle la fantasy, qui est vraiment plus n'importe quoi, là. Si je regarde, par exemple, comme le Seigneur des Anneaux, c'est plus de la fantasy que de la science-fiction. Quand on voit, par exemple, des dragons, des magiciens,
des licornes.
Oui, ça, c'est plus de la fantasy.
Oui.
Alors que la science-fiction, c'est plus dans le style d'Arthur Clarke avec 2001, l'Odyssée de l'espace, ou même Contact, qui a été écrit par Carl Sagan, et qui est, selon moi, un très bon film sur les extraterrestres.
De là, le terme science-fiction. Il y a un fondement scientifique derrière tout ça. Et il vient d'y avoir un film à la fin de l'année 2014. Là, c'était Interstellaire.
Ouais.
Et j'ai entendu des scientifiques à l'émission de Radio-Canada du dimanche, Les années-lumière, qui disait, c'est la première fois que des scientifiques recommandent à d'autres scientifiques d'aller voir le film Interstellaire pour apprendre le dernier cri de la version, qu'on pourrait dire, de la compréhension des trous noirs, entre autres,
ouais,
qu'on explique très bien dans le film Interstellar. Alors oui, on voit qu'il y a de la science derrière tout ça, puis donc on peut apprendre, même les scientifiques pourraient apprendre à partir de films de science-fiction, des reconstitutions, etc. Mais là, le phénomène extraterrestre dont on parle maintenant, là, aujourd'hui, à la différence de la semaine dernière où on était allé beaucoup dans les traditions religieuses qui font parler des démons, on a parlé des succubes, des incubes, des possessions faites par des esprits malins. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un autre côté à la médaille? Je l'avais comparé au petit chaperon rouge en disant, oui, le loup, hein, le dangereux loup qui a mangé le petit chaperon rouge, mais qui va être sauvé des entrailles du loup par son père, le bûcheron, qui vient lui ouvrir le ventre, et le petit chaperon rouge sort de là en un seul morceau, et puis il est très heureux d'être libéré de l'emprise de ce loup qui l'avait amené dans les entrailles. Alors, est-ce qu'il y a des preuves, ou est-ce que toi, dans tes lectures, tu pourrais aujourd'hui nous dire, en effet, au-delà des mythes, des démons, des êtres malveillants, il y a des êtres bienveillants?
Dans les lectures que j'ai faites, et comme je disais un petit peu précédemment, j'essaie de prendre un peu de recul et de regarder ça plus d'une manière sociologique. Il y a deux livres qui sont sortis récemment, un en 2013 et un en 2014. Celui de 2013 s'appelle... C'est deux livres anglais. Je m'excuse pour les francophones, là, mais souvent, on est obligé d'aller du côté de la littérature anglophone.
Américaine.
Parce que tout n'est pas traduit en français.
Oui.
Ouais, ça peut être américain ou peut-être anglais, quelquefois.
L'Angleterre.
Il y a des livres anglais qui sont intéressants sur l'ufologie. Mais dans ce cas-ci, c'est des Américains. « Extraterrestrials and the American Zeitgeist ».
Oh, là, ça veut dire quoi, Zeitgeist? Ça a de l'air
Zeitgeist, c'est un mot allemand. On connaît le fameux mouvement Zeitgeist, là, dont il y a un film célèbre sur YouTube. Là.
Ça veut dire quoi, Zeitgeist?
Ça veut dire l'esprit du temps. Un peu, moi, je dis l'air du temps.
L'air du temps.
Qu'est-ce que c'est le contexte social?
Quand alors, reprends le titre, mais en traduisant au complet.
Quand les ovnis sont apparus, dont les extraterrestres et... l'esprit américain des années 50, en fait, parce qu'on parle surtout des contactés dans ce livre-là. Et les années 50, ben, c'était la guerre froide. C'est une époque particulière.
Oui,
début de la guerre froide, juste après l'explosion d'Hiroshima. Donc, le premier... Et pour parler du côté positif, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon analyse personnelle, là, qu'on est presque obligé de s'intéresser au phénomène des contactés. Parce que si on regarde seulement du côté des abductions, des enlevés, pour trouver des preuves du phénomène OVNI, c'est peut-être intéressant, mais il n'y a pas grand-chose de positif dans ça. Tout ce qu'on entend des témoignages, c'est des gens qui sont souvent traumatisés par l'expérience, apeurés, horrifiés. Ils ne veulent pas que ça recommence, mais ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Sauf, encore là, je vais quand même revenir un petit peu sur... moi, je les appelle nos amis chrétiens, là, qui, certaines études, selon eux, démontreraient que si on fait appel au nom de Jésus-Christ lors d'une abduction, ça peut arrêter l'enlèvement. Ça, naturellement, la personne qui rapporte ça, c'est un enquêteur de MUFON, et qui dit qu'il y a 300 cas répertoriés où des gens, en invoquant le nom de Jésus-Christ, ont pu stopper complètement des enlèvements, soit qui arrivaient pour la première fois ou à répétition. Et on peut arriver avec l'objection, oui, mais je connais des cas, les gens ont dit Jésus et l'enlèvement a continué. Mais là, les chrétiens, ils ont des réponses à ça. Ils vont dire, oui, mais il faut vraiment croire sincèrement à Jésus, l'avoir accepté personnellement comme son sauveur. Sinon, c'est juste une croyance en surface, puis ça ne fonctionne pas.
Ah oui?
Ouais.
Alors, comme si ces êtres-là s'en rendaient compte que tu n'es pas sincère, ouais, t'es pas honnête.
Oui, semble-t-il. Alors, c'est une affirmation comme ça. Okay. Ça serait intéressant, s'il y a des auditeurs qui ont des problèmes avec des enlèvements, d'essayer ça, là, puis vous nous en donnerez des nouvelles.
Des enlèvements par des extraterrestres, on s'entend, là, oui.
extra, intra, en tout cas, quelque chose que vous n'aimez pas, là, invoquez le nom de Jésus-Christ, puis vous allez voir si ça va cesser.
Alors, dans les années 50, c'est vrai qu'il y a eu des gros cas comme
Alors,
Howard
ça a commencé
Manger,
avec Adamski, surtout, Adamski, c'est le plus connu, au début des années 50. Daniel Fry, enfin, il y en a eu plusieurs. Ça, c'est une autre chose que les gens savent plus ou moins, parce qu'on mentionne toujours Adamski, c'est le plus connu, donc c'est celui qu'on mentionne le plus souvent. Mais si on fait des recherches sur l'Internet, on peut trouver une centaine de noms, au moins, de personnes qui se disaient contactées. La plupart du temps, des hommes, quelquefois des femmes.
Par la même catégorie d'êtres extraterrestres dans la description?
C'était la plupart, quand c'est des cas de contactés, c'est souvent beaucoup plus des êtres à apparence humaine.
Totalement apparence humaine, ouais. À s'y méprendre.
Bon,
ça.
Dans le cas d'Amski, on parle de grands blonds, là.
Oui.
Il y a d'autres cas, si on prend Betty Barney Hill, c'est des petits extraterrestres qui ressemblent un peu plus aux petits gris,
oui.
Mais qui sont quand même pas trop, c'était pas des êtres effrayants, là.
Mm-hmm.
Et si on veut le côté positif, comme je disais tantôt, il me semble que c'est seulement avec les messages des contactés, parce que les contactants, en général, ils reçoivent toujours un message. C'est toujours l'extraterrestre qui vient parler à quelqu'un pour dire « Votre humanité est en danger ». À l'époque d'Adamski, c'était à cause des armes nucléaires, surtout. Aujourd'hui, c'est à cause de l'écologie. Et on vient nous dire « Vous devez changer votre façon de fonctionner, vous devez changer même jusqu'à votre type de gouvernement, etc. » Et nous, on a des conseils qu'on peut vous donner pour aider l'humanité. Dans les recherches sociologiques que j'ai lues...
On peut dire qu'il n'y avait pas tout à fait tort, hein? Parce
ben non,
que l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est nocif.
Effectivement.
En écologie, on est en train de détruire la planète. On commence à penser qu'on ne se rendrait peut-être pas à l'an 2100, là... Il y a des gros problèmes à régler rapidement puis d'urgence. Alors, ces êtres-là qui ressemblent à des êtres humains, comme tu dis, ça fait donc dire que réellement, ils sont peut-être nos parents, nos frères ou nos cousins, beaucoup plus que des reptiliens, comme on entend parler souvent. Alors, ils ont intérêt à aider la parenté, en tout cas, ici sur Terre. Hein.
C'est selon les témoignages, en tout cas. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, hein, en ufologie. On n'enquête pas sur l'OVNI, on enquête sur le témoignage d'une personne qui dit avoir vu un objet mystérieux, souvent,
soit
lumineux, dans le ciel, parce que souvent c'est juste « j'ai vu ça passer, ça a passé vite, c'est tout
mm-hmm. ».
D'autres fois, il y a des traces au sol. Là, à ce moment-là, pour les enquêteurs ufologiques, ça devient plus intéressant.
La radioactivité, le sol est écrasé, 20 tonnes de pression sous chacune des trois pattes. Sous la soucoupe volante qui a écrasé le sol. Des choses qui sont d'appréciation scientifique intéressantes parce qu'on se dit comment, en plein milieu d'un champ, il y aurait quelque chose qui aurait pu se rendre là puis peser sur le sol ou brûler le sol en rond en laissant des traces de radioactivité, surtout sur des objets en métal qui étaient là, mettons.
À ce niveau-là, on dirait qu'il y a effectivement des preuves concrètes, matérielles, qu'il y a eu une présence d'un objet inconnu.
C'est ça.
Là, encore là, je parle toujours du point de vue de la sociologie. On essaie de trouver des explications et on connaît le fameux principe du rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est toujours la meilleure. C'est plus simple pour un terrien de trouver des explications très terrestres que d'aller chercher l'extraterrestre.
Oui.
Fait que même si on a un phénomène très étrange, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben finalement, ce ne sont que des expérimentations militaires secrètes dont on n'est pas au courant, mais qui sont
très
en avance.
Oui, c'est ça.
Richard Dolan, entre autres, dans son livre UFOs for the 21st Century Mind, qui n'est pas traduit en français non plus, malheureusement, il parle de quelque chose qui appelle la Breakaway Civilization. Ça serait un groupe de personnes.
Qui veut dire quoi, là, breakaway?
Une civilisation de rupture, qui est en rupture avec notre civilisation à nous, donc qui sont très en avance sur nous.
Il y aurait un développement parallèle au nôtre, mais complètement
sur
détaché,
Terre,
détaché du nôtre, qui n'aurait pas de contact avec notre réalité, les médias, puis tout ça. Ça leur passe du pied au-dessus de la tête parce que tout est sous contrôle et ils réussissent à avoir un développement parallèle mais beaucoup plus rapide,
mais beaucoup plus avancé.
Alors, on en reparle après la pause qui vient. De retour à Ésotérisme expérimental sur le thème le phénomène extraterrestre, les ovnis, les soucoupes volantes. Mais cette fois, on s'est promis d'aborder dans cette 9e rencontre à Ésotérisme expérimental ici à la radio du mieux-être l'aspect des bienveillants. On a laissé tomber les malveillants, mais là, on a soulevé juste avant la pause le dossier des civilisations parallèles en connivence avec des interventions extraterrestres qui donnent des conseils scientifiques, de la technologie. Et à ce niveau-là, moi, j'aimerais bien, Pierre-Charles, débuter en parlant des fameux « Anebu ». « Anebu », c'est un mot allemand qui veut dire « rendez-vous ». Et il s'agit de plusieurs types. Et si j'ai des plans même de construction de ces ovnis fabriqués par l'époque du Troisième Reich, Adolf Hitler. Et oui, on comprend que les Anebu, c'est un rendez-vous avec une société d'origine extraterrestre et qui venait de Aldébaran. La constellation, le système solaire Aldébaran, est à 68 années-lumière de la Terre. Oh là! Ça voudrait dire qu'à la vitesse de la lumière, ça prendrait 68 ans. C'est logique qu'un être humain peut survivre. 68 ans, il commence bébé, puis il finit déjà âgé. Mais il semblerait qu'ils ont une technologie qui leur permet d'aller bien au-delà de la vitesse de la lumière, soit en utilisant les trous de verre, ou soit en repliant l'espace, ou soit tout simplement en ayant une technologie de matérialisation, trouver le point de rematérialisation, ce qu'on appellerait finalement la téléportation qui est presque instantanée. Un jour, on reparlera de la structure de l'univers, les différentes couches de la pelure d'oignon qui sont une dans l'autre, un peu comme les poupées gigognes, les poupées russes, là, et qu'il suffit juste d'être à la bonne place, dans le bon angle, et changer, shifter, comme ils disent en anglais, passer d'un plan à un autre plan vibratoire, les fréquences. Souvenez, on en a beaucoup parlé cet automne. Alors donc, ces fameux Anebu, Pierre-Charles, est-ce que ce ne serait pas justement une forme de technologie en parallèle dans des sociétés humaines de connivence avec des extraterrestres?
C'est sûr que la théorie, moi, pour moi, ça demeure toujours une théorie. Ça serait que les Américains auraient récupéré des appareils expérimentaux allemands à la fin de la guerre.
Oui, dans le fameux projet Paperclip.
Paperclip, oui. On sait l'histoire que Wernher von Braun a été récupéré par les Américains, certains autres ont été récupérés par les Russes, certains savants partagé ça.
Wernher von Braun, c'est lui qui s'occupait des V1, V2 en Russie, en Allemagne, c'est-à-dire, et puis après, c'est lui qui s'est occupé d'aller placer les Américains sur la Lune avec les fusées Apollo. Et lui, il disait toujours, ce n'est pas mon allégeance à un pays, à une nation qui est importante, je n'ai qu'une allégeance, c'est à la science.
Eh bien. Mais pour revenir aux fameuses technologies allemandes, c'est évident que ça devient intéressant parce que cette théorie de la société ou de la civilisation en rupture avec nous, qui est en avance, lorsqu'on regarde ces appareils-là, c'est certain, par leurs caractéristiques, qui sont en avance sur nous énormément, et qu'ils ont probablement eu cette technologie-là par des extraterrestres, même si certains que l'on voit aujourd'hui sont peut-être de fabrication humaine. Et ça correspond à d'autres études, entre autres Mac, M-A-C, Mac Tonies, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les crypto-terrestres », où il avance à peu près la même hypothèse que ce qu'on appelle le phénomène extraterrestre, autant celui des années 50 que celui de notre époque, serait en fait justement des êtres qui viennent de la Terre, des humains, mais différents de nous, et qui ont eu un développement technologique différents, soit avec une aide extérieure, bien sûr, ou peut-être c'est des secrets des civilisations antérieures. On connaissait l'Atlantide. Il y a peut-être des secrets de ces civilisations-là qui ont pu être conservés et récupérés par des sociétés initiatiques et qui existent toujours dans cette fameuse civilisation de rupture là, dont parle Richard
Dolin.
Oui,
j'aime ça, et d'autant plus qu'il y a des civilisations peut-être très, très anciennes qui se sont rapatriées à l'intérieur de la Terre, comme on parlait la semaine dernière, la fameuse théorie de la Terre creuse, auquel d'ailleurs croyait Hitler et toute sa bande. Il y a aussi la société du Vril qui disait que les ovnis de Schauberger, entre autres, arrivaient à l'antigravitation. Alors, il y a peut-être justement dans ces savants-là une prise de conscience qu'ils étaient tellement en rupture avec la science conventionnelle qu'ils étaient mieux de travailler à l'abri des regards. Alors, on pense à la base Area 51. On nous dit qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe là, là au Groom Lake, aux États-Unis, dans le Nevada, et qu'ils sont déménagés en Australie, à Pine Gap. Il faut savoir que l'Australie, hein, c'est un très grand territoire désertique. Fait qu'ils ont bien de la place pour être à l'abri des regards, maintenant, à Pine Gap.
Ou sinon, des bases, justement, souterraines, ce qui nous fait peut-être croire que c'est des intraterrestres, mais sans que ce soit vraiment un monde au milieu de la Terre, là, comme Richard Shaver l'avait prétendu.
Oui.
Mais c'est simplement des grottes souterraines très profondes. Ou encore, et ça, il y a beaucoup de cas là-dessus, on n'en parle pas souvent, Richard Dolin est aussi éditeur et il a publié le livre d'un auteur dont je ne sais pas le nom, qui est consacré uniquement aux cas d'observation d'ovnis qui sortent de l'eau, des lacs, des océans, et il y en a beaucoup.
Oui.
Donc, c'est facile pour les extraterrestres, ou en tout cas les êtres qui possèdent cette technologie-là, de se cacher au fond des océans parce qu'on a encore beaucoup de difficultés avec notre technologie, nos sous-marins, à aller très profond, très longtemps, partout. Alors, c'est une bonne place pour se cacher. D'ailleurs, dans la Bible, dont on a parlé la semaine passée, quand on parle du fameux Léviathan qui se cache au fond de la mer, c'est une référence, selon certains auteurs, à un groupe d'extraterrestres qui se cachait au fond de la mer.
C'est Jonas qui a été avalé par une baleine, qui était rentré Jonas dans la baleine, mais la baleine n'était peut-être pas un animal poisson là, ou mammifère, comme on sait, mais peut-être que c'était un vaisseau, justement. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont bougées par l'ufologie, puis c'est peut-être ça qui dérange, parce que les scientifiques aiment bien, ou les gens de la société en général, aiment bien se faire expliquer les choses et qu'on soit certain de ce dont on parle. Dans le phénomène extraterrestre, il faut avoir beaucoup d'humilité et se dire « on n'est pas certain », parce que même encore sur le plan scientifique, on n'a toujours pas la soucoupe volante, à moins que des militaires l'aient acquise, et qu'ils ont développé par ce qu'on appelle le rétro-engineering, c'est-à-dire l'ingénierie rétrograde, qui permettrait, à partir d'un objet qui est fonctionnel, d'en défaire un petit morceau, de voir qu'est-ce que ça produit, de le replacer. Ah, on vient de se rendre compte que ça, ça servait à ça. Puis finalement, tu sais, défaire un radio autrefois à lampe, là, puis tout ça, bien, il suffisait d'enlever une lampe pour se rendre compte que, oh, ça arrêtait le haut-parleur. Oh, ça arrêtait la lumière sur l'afficheur en avant. Fait qu'on le défaisait par petits morceaux, puis on le refaisait, on le défaisait, on le refaisait. On finissait par comprendre à quoi servaient toutes les parties du radio pour un jour peut-être être capable de s'en fabriquer un à partir de pièces détachées. Mais alors, donc, est-ce que donc les bons extraterrestres bienveillants pour faire avancer la société, qui a peut-être fait le choix délibéré de s'intéresser, d'intéresser et d'aider qu'une section de notre société et laisser le petit peuple, hein, le monde ordinaire, s'arranger avec les parties de hockey puis les Super Bowls, alors qu'ils vont aller aider ceux, j'allais dire, qui le méritent ou ceux qui sont de leur niveau de compréhension et d'intelligence? C'est peut-être une possibilité, mais y aurait-il d'autres aspects de cette relation avec les bons extraterrestres?
Moi, il y a deux choses que je regarde. J'essaie toujours de voir, on dit souvent les deux côtés de la médaille, là.
Mm-hmm.
C'est que moi, premièrement, je suis pas totalement certain que tout ce phénomène-là est d'origine extraterrestre, d'une part. Je suis pas certain non plus que ce soit des intraterrestres ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, les deux façons que moi j'ai de voir ça, parce que là on parle de changement. Jacques Vallée avait parlé de changement. Qu'est-ce que c'est le phénomène OVNI finalement? C'est comme une espèce de système qui sert à faire changer la mentalité d'une société pour la faire évoluer. Mais ce que Jacques Vallée ne sait pas, où il se pose la question, c'est est-ce que ce système-là provient d'êtres extraterrestres ou interdimensionnels, ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné à l'humain de créer en quelque sorte un genre de système de pensée pour améliorer son état. Donc, ce que je veux dire par là, et j'en reviens aux études sociologiques sur le phénomène décontacté, le livre dont je parlais tantôt, sur les extraterrestres, c'est que ça pourrait être aussi soit des individus personnellement ou un groupe quelconque qui voudrait influencer l'humanité pour apporter des changements nécessaires. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus puis qu'il faut qu'il y ait des changements. Puis ça ne sera peut-être pas facile, les changements qui doivent être apportés. Mais si un humain ou un premier ministre, un président dit « nous allons faire tel changement », les gens vont peut-être trouver ça un peu dur. Mais si on crée un phénomène social qui s'appelle le phénomène des contactés et où quelqu'un nous dit « voici, j'ai reçu le message des extraterrestres qui nous dit comment on devrait faire fonctionner la société pour que ça soit mieux », il y en a qui pensent probablement que ça pourrait favoriser ce changement d'une manière plus aisée qu'avoir l'impression de l'imposer par un gouvernement, une dictature ou quelque chose comme ça.
On n'est jamais prophète en son pays. Donc, allons chercher le prophète qui est de l'extérieur, alien, comme on dit, l'étranger, qui vient dire « Nous, ailleurs, dans l'univers, on agirait comme ça. Vous devriez comprendre qu'il est temps de changer votre comportement. »
Avant, c'était Dieu qui nous parlait. Dieu parle à Moïse pour nous donner des commandements. Comment
Mais
faire?
Personne ne l'a vu, le Dieu. Moïse était tout seul en haut de la montagne, puis il est revenu en bas avec des commandements écrits sur des pierres en disant « J'ai rencontré Dieu que personne n'a vu. » Et il vous dit de faire comme ça dans l'avenir, les 10 commandements.
Ben, il y a les 70 anciens. Il y a une phrase qui dit « Et les 70 anciens montèrent avec Moïse et ils virent le Dieu d'Israël et ne moururent point. » J'avais sorti ça un moment donné, témoin de Jéhovah, il m'avait dit « En tout cas, il y en a juste 70 qui l'ont vu.
» Bon, ben, on va réfléchir à ça pendant la pause qui vient pour l'indication de la station. Alors, on revient dans quelques minutes, mesdames et messieurs, à Ésotérisme expérimental, où on aborde sans parti pris, ni pour un mouvement religieux, ni pour une secte, ni pour une doctrine quelconque, le phénomène extraterrestre qui interpelle tout le monde. De retour à Ésotérisme expérimental. Oui, on reconnaît tous cette musique qui nous a tous imprégnés du monde du phénomène extraterrestre. Le fameux film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. C'est en rapport avec la nomenclature de Alan Hynek. C'est pas la rencontre d'un troisième individu, le troisième type, non, non. Ça a rapport avec le fait qu'on peut être en contact avec des êtres qu'on appellera, nous, extraterrestres. Alien en anglais, qui veut plutôt dire étranger. Sans savoir s'ils viennent d'une autre planète ailleurs ou, comme j'ai déjà dit, peut-être de l'intérieur de la Terre ici même. Et là, Pierre-Charles Dubreuil nous parlait de l'approche sociologique du phénomène extraterrestre, sans adhérer à une secte, un mouvement quelconque, c'est juste de prendre un recul pour se dire comment les choses se passent-elles. On se souviendra que le 30 octobre 1938, il s'appelait Orson Welles, à la radio, La guerre des mondes, qui avait été diffusée en direct à ce moment-là, directement de New York, sur la station CKAC de Montréal. Ici, au Québec, on n'a pas paniqué comme aux États-Unis, ça a tout l'air, parce qu'il y avait peut-être moins de monde à écouter l'émission en anglais, évidemment. Et aussi, on répétait souvent qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Bon, mais là, dans le fond, Pierre-Charles, comment peux-tu intégrer là, le phénomène sociologique après qu'on ait eu la psychose générale de 1938 avec des bons extraterrestres alors qu'on les a fait passer pour des envahisseurs dangereux et méchants?
Dans la plupart des films, parce que c'est surtout les films, je pense, que les gens regardent plus que la littérature, on voit effectivement souvent des extraterrestres belliqueux, comme on dit, les malveillants, etc. Et quelquefois, on a des films extraordinaires comme E.T., comme Rencontre du troisième type, qui était quand même un très bon film, comme oui. Contact. Il y aurait peut-être des véritables extraterrestres, des êtres qui observent l'humanité et qui disent « ils sont rendus à un stade critique et ils auraient besoin d'aide » et ils nous envoient des messagers. Des contactés, depuis les années 50, on appelle ça le phénomène des contactés. Alors, ça pourrait aussi être de véritables personnes contactées par des êtres extraterrestres. On en a nommé plusieurs jusqu'à maintenant. Il y a aussi, c'est pour ça qu'on appelle en sociologie la catégorie des missionnés ou des extraterrestres qui sont comme les sauveurs, qui viendraient ici pour nous sauver. Et de ce côté-là, on prend par exemple Stephen Greer avec son film Sirius, où il disait que dans le fond, pourquoi est-ce que les gouvernements ne veulent pas révéler la réalité sur les extraterrestres? C'est parce qu'on aurait accès à l'énergie libre et gratuite, la fameuse free energy. Là, où...
Oui.
Donc, c'est évident que ça ferait tomber toute l'industrie du pétrole. Ça ferait vraiment une chose qui pourrait être importante à dire ici. On mentionne souvent que ça ferait tomber les religions. Il y a des études qui ont été faites dernièrement là-dessus, entre autres dans le livre de Ted Peters, qui s'appelle « UFOs, God's Chariots ». Et lui-même a fait un sondage, une étude dans ce livre-là, et il démontre que c'est faux de dire que les religions tomberaient obligatoirement si on révélait la réalité de l'existence d'extraterrestres. Et parce que d'une part, il y a plusieurs religions pour qui ça serait assez facile d'adapter cette croyance-là, sauf, on en revient toujours à eux, les chrétiens fondamentalistes qui pensent que c'est des démons. Avec eux, non, ça ne marche pas.
Corrado Balducci, qui était un conseiller au Vatican, était passé à plusieurs reprises sur les émissions en Italie, en italien. Et il déclarait qu'effectivement, le Vatican est prêt à missionner ou à baptiser ou à convertir les extraterrestres à la croyance en Jésus-Christ, fils de Dieu, fils unique de Dieu. Oui, et après avoir déclaré que le Vatican était très au fait du phénomène extraterrestre, même on a su par la bande là, que le pape Jean XXIII aurait eu des rencontres dans les jardins de Castel Gandolfo, justement à l'époque où il y a eu la grande crise de Cuba, qui a été résorbée heureusement par l'intervention du pape de l'époque, qui était Jean XXIII, comme on vient d'apprendre là, que François Ier, François, le pape présentement, vient d'aider au rapprochement officiel entre les États-Unis et Cuba. Alors, il y a peut-être une vraie bonne volonté derrière tout ça. On est à l'époque de Noël, hein? Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, disait-on, hein? Que chantaient les anges aussi, Alléluia. Mais au-delà de tout ça, là, moi, il y a un cas qui est très étrange qui s'appelle Gary McKinnon. Et Gary McKinnon, qui était un jeune homme un peu autiste en Angleterre, qui utilisait des ordinateurs très primaires, là, pas très compliqués, puis avec des gros programmes. Non, des choses très simples. Il avait réussi à entrer dans 97 ordinateurs de la NASA et de l'armée américaine pour consulter si le mot UFO ou aliens et tout ça était inscrit. Et il a découvert, à sa grande surprise, qu'il y avait ce qu'on appellera une technologie exotique utilisée par des véhicules antigravitationnels, des flottes secrètes en orbite autour de la Terre qui peuvent circuler entre la Terre, la Lune, Mars, qui portent des noms très précis de généraux ou d'amiraux américains ou anglais. Et Gary McKinnon, on voulait l'exporter aux États-Unis pour qu'il subisse un procès puis qu'il soit enfermé. Alors la reine d'Angleterre a pris sa défense personnellement pour le garder en Angleterre sous son aile protectrice en disant c'est comme un enfant là. Et puis c'est un autiste. Donc il n'y avait pas d'intention malveillante derrière ça. D'ailleurs, on le sait, Gary McKinnon n'a pas nui au fonctionnement des ordinateurs. D'ailleurs, les spécialistes américains, ils pensaient que c'était un type qui s'occupait de l'entretien des ordinateurs, fait qu'ils le laissaient passer partout. Et à un moment donné, ils ont fini par se demander « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Il change rien, il vient rien faire, mais il est là, il se promène. » Et lui-même, Gary McKinnon, a dit qu'il y avait beaucoup d'autres hackers comme lui qui se promenaient en même temps que lui dans les ordinateurs, je le répète, là, 97 ordinateurs de la NASA. Alors, c'est pour dire que lui, sans croire à rien en particulier, juste vérifier des faits dans les ordinateurs de la NASA. Il y a comme une confirmation qu'on est vraiment en rapport avec ces êtres extraterrestres qui aident à un développement technologique. Comme dirait Richard Dolan, « a breakaway civilization », une civilisation en marge. C'est ça, en marge de notre monde. Et on nous cache l'information. Et quand on commence à mettre le doigt sur des choses, on se fait taper sur les doigts. Alors, je ne sais pas comment l'ufologie va se développer dans les années qui viennent, mais on semble voué à un non-lieu.
On est actuellement dans une, je dirais, une troisième étape de l'ufologie. C'est, je mentionne souvent le livre de Richard Dolan, parce que je pense que si on veut avoir une vision générale de l'histoire complète de l'ufologie, c'est vraiment le livre que j'ai trouvé qui résumait le mieux, qui a la meilleure approche et qui donne le plus de détails. Entre autres, par exemple, à l'époque des contactés, les années 50, ce que Richard Dolan reproche à l'ufologie, et c'est encore présent aujourd'hui, malheureusement, c'est l'influence de Helena Blavatsky. La société théosophique, selon lui, a comme contaminé les informations réelles qu'on reçoit sur le phénomène OVNI. Et c'est encore pire aujourd'hui à cause du phénomène qu'on appelle la canalisation ou le channeling. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des messages ou prétendus messages qu'on reçoit d'êtres, soit extraterrestres, extradimensionnels, ou on peut donner beaucoup de noms, c'est souvent par channeling. C'est des messages qu'on peut à peu près jamais vérifier. C'est des choses souvent banales. C'est correct, aimez-vous les uns les autres, là, mais c'est quand même assez banal. Donc, ça vient contaminer, selon les ufologues en général, la véritable recherche en ufologie. Et on en est rendu là depuis les années 80-90 environ, avec l'Internet, comme j'ai dit un peu au début, le copier-coller. Là, on est rendu avec du copier-coller de vidéos. Parce que sur YouTube, on a des ordinateurs tellement performants que monsieur, madame, tout le monde peut très facilement truquer une vidéo, mettre ça sur YouTube et dire « Regardez, j'ai filmé un OVNI hier soir. » Alors même la preuve, là, si on pouvait appeler ça une preuve vidéo, aujourd'hui, on ne peut plus totalement se fier à ça. Mm-hmm. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, quelqu'un qui aurait filmé un véritable OVNI, mais ça va prendre des témoignages. Puis ça devient de plus en plus difficile, j'ai l'impression, parce que c'est comme s'il y avait beaucoup plus de confusion. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, là, qu'on ne peut plus vraiment se fier. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'intéressent, d'une part, pas du tout au phénomène, qui nous écoutent, là, aujourd'hui, puis qui disent « Ah, je vais virer de poste, là, ça ne m'intéresse pas, ce phénomène-là. » Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses, ça va dans toutes les directions. Puis c'est pour ça que les ufologues se plaignent, parce qu'ils ne peuvent pas faire un travail sérieux, c'est pas pris au sérieux. C'est ridiculisé à cause de certains personnages qu'on connaît.
Et ils n'ont pas l'appui des grandes autorités, qu'elles soient politiques ou militaires.
Ou scientifiques.
Ou scientifiques,
les scientifiques, c'est très difficile, il y en a quelques-uns.
Mais pour les scientifiques, ça prend le laboratoire. Amène-moi une soucoupe volante en laboratoire, un extraterrestre, on va analyser une bottine d'extraterrestre si on veut. Et ça, personne n'en a des preuves concrètes, en tout cas pas pour le moment. S'il y en a, comme je dis, c'est l'armée qui les garde jalousement pour eux. Et puis, pour le peuple, amusez-vous avec la science-fiction, avec des farfelus qui se disent être des extraterrestres dans un corps d'être humain. Tout peut y passer. Et tout peut y passer, d'ailleurs, par le phénomène extraterrestre. Parce que ce qui nous semble invraisemblable dans certains cas, ou fiction, qu'on regarde le développement de la science d'aujourd'hui, la baguette magique que tout le monde a à la maison, au salon, pour changer les postes de télévision à distance, pour augmenter et baisser le volume, allume et ferme la télévision à distance, ça s'appelle une télécommande. Et ça, il y a 40 ans ou 50 ans, ça n'existait pas. Alors, c'est presque invraisemblable ou incroyable que ce qui nous paraît être de la fiction, la réalité du phénomène extraterrestre qui a peut-être 500 ans ou 5000 ans d'avance sur nous, sur le plan matériel et spirituel, ben, c'est de la fiction, alors que c'est comme la baguette magique, quelque chose qui va être à notre portée dans peut-être pas si longtemps.
Tu viens de mentionner le mot spirituel.
Oui.
Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi dans les messages en général des contactés. L'aspect spirituel, on dit souvent que notre époque est rendue trop matérialiste et puis qu'on a besoin de développer une spiritualité. Et ça, c'est assez spécial, parce que même si on va chez les athées, ces gens-là disent qu'ils vivent une grande spiritualité. Mais par contre, les gens aujourd'hui sont rendus allergiques au mot « religion », que ce soit « religion », juste le mot, ou surtout « religion institutionnalisée », c'est encore pire.
Oui, oui.
Mais les gens vont toujours vous dire « je vis quand même une spiritualité ». Et dans certains cas, le phénomène OVNI, certaines personnes qui sont mises en contact avec ce phénomène-là vont développer soit une spiritualité plus grande, soit éventuellement des pouvoirs. Ça, je pense qu'on peut le démontrer par les témoignages des gens. Là, il y a certains pouvoirs qu'on appelle paranormaux qui vont être développés suite à une rencontre avec un phénomène inusité, OVNI ou quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça très intéressant.
Il faut avoir de l'espoir, hein? Et puis peut-être que c'est une des méthodes que utilisent certaines personnes pour nous faire avancer dans la bonne direction. Sinon, sans espoir, on est perdu. Après la pause, on reviendra sur ce qu'on attend et qu'on espère pour ce que d'autres appelleront la fin des temps, lorsqu'on arrivera au bout du chemin, nous, dans la matière, prisonnière du temps et de l'espace. De retour à Ésotérisme expérimental. Bien, le dossier extraterrestre OVNI que nous avons piloté depuis deux semaines, la semaine dernière et cette semaine, à l'émission numéro 8 et cette semaine l'émission numéro 9, tire à sa fin maintenant. Et comme on est au début de l'année 2015, il serait important d'être un petit peu optimiste. Pierre-Charles, peut-on être optimiste avec ce qu'on sait du phénomène extraterrestre? On dirait que c'est presque un jeu de fou. Plus on cherche, moins on en sait. Plus on y va dans des révélations des uns et des autres, et puis plus on cherche la vérité, moins on trouve.
Il y a le projet Disclosure aux États-Unis, projet Révélation en français, je pense.
Oui.
Et c'est sûr que c'est optimiste dans le sens que ces gens-là, presque à chaque année, là, nous disent « bon, ben c'est cette année que finalement le gouvernement va nous dire la vérité sur le phénomène OVNI ». Et il y a encore mon ami Richard Dolan qui a écrit un livre avec un autre auteur qui s'appelle AD, After Disclosure. Qu'est-ce qui va se passer sur Terre après qu'on va avoir eu la révélation de l'existence des extraterrestres?
Qu'on aurait eu la révélation de quelle façon? Par les autorités qui nous disent « c'est vrai, on vous a caché la vérité pour votre bien, maintenant que vous êtes rendu mature, que l'idée a fait son chemin, on sent qu'il n'y aura pas de réaction hystérique de la part de la population », ce serait ça, ou est-ce que ce sera la manifestation officielle du phénomène extraterrestre?
C'est ça, le livre en question parle de différentes possibilités. Une possibilité, c'est sûr, ça pourrait être des scientifiques qui révèlent, eh bien, nous avons trouvé des traces de vie sur Mars ou peut-être ailleurs avec toutes les exoplanètes qu'on découvre de plus en plus. Et avec le perfectionnement des techniques, un jour, et la NASA le dit, d'ici maximum 20 ans, on va pouvoir dire s'il existe de la vie sur une autre planète à l'extérieur du système solaire. On va pouvoir le dire, là.
Oui, mais ça, ça ne fera pas la révélation.
C'est ça. Ça ne sera pas quelque chose d'absolument extraordinaire, mais disons que ça pourrait être une possibilité.
Ça, ça viendra, c'est déjà presque arrivé. On commence à parler de la panse permis, qu'on appelle.
Ouais.
C'est-à-dire que l'arrivée d'astéroïdes sur la Terre, comme on en a trouvé en Antarctique, qui provenait, semble-t-il, de la planète Mars. On a des preuves que, oui, il y a des bactéries, il y a des organismes vivants là, qui existeraient ailleurs dans l'univers, mais ce n'est pas l'extraterrestre qui arrive en soucoupe volante. Là.
Disons que la panse permis, c'est le thème du fameux film qui sort ou qui est sorti, selon la date où passe notre émission, Jupiter Ascension.
Ça, c'est pour le début du mois de février, précisément le vendredi 6 février, le jour de mon anniversaire, qui est aussi le jour anniversaire de Truffaut, François Truffaut.
François.
6 février, lui aussi, et qui a joué le rôle de Jacques Vallée dans le film Rencontre du troisième type.
Fait que le thème de ce film-là, c'est justement de la panse permis, dans le sens que dans la bande-annonce, ce qu'on voit, c'est que vous avez toujours cru que la Terre a évolué sur la vie a évolué sur la planète Terre, mais en fait, elle a été ensemencée par une puissante compagnie. Alors, c'est un peu ça. Et là, comme tu disais, le thème du film, le sous-thème, c'est...
Maintenant, la moisson est levée et on va faire la récolte. Le temps de la récolte est venu. Ça semble pas très optimiste, mais ça rejoint les textes prophétiques. D'ailleurs, dans les textes prophétiques, on peut pas oublier la notion de ce qu'on appelle l'arrivée sur Terre de la Jérusalem céleste. On donne les mesures de la Jérusalem céleste, mais 12 000 stades, ce qui représente à peu près 2298,24 kilomètres. Une diagonale de 6970 stades. Alors, 3250 kilomètres de diamètre, de diagonale en fait. Et puis, donc, il s'agit d'un cube qui va descendre sur les monts de Sion pour permettre l'instauration d'un, j'allais dire, un nouvel ordre mondial. Il ne faut pas le dire comme ça, il faut dire le règne du Messie, appelons-le comme
si
ça.
Si on regarde ça d'un point de vue, je dirais, théologique ou en tout cas religieux, c'est évident que chez les Juifs, on parle de l'ère messianique. On attend le retour de Yahvé qui va poser la plante de son pied sur le mont Sion. Et bon, chez les chrétiens, on va dire que c'est le retour de Jésus.
Et les orientaux l'appellent Maitreya.
Effectivement.
Alors chacun a son Messie qui va revenir. Et on sait que le mot Messie, Mashiach, c'est en Kabbale, pour la Kabbale hébraïque, là, la même valeur que le fameux serpent, Nahash.
Ouais.
Alors, le Nahash ou le serpent, c'est le Messie. Donc, c'est celui qui était venu porter la connaissance à l'être humain en lui disant « Goûte-y du fruit de la science, du bien et du mal, et tu deviendras semblable à tes créateurs, des Elohim. » Alors, on y a goûté, et on est rendu à toucher les principes de l'immortalité dans l'être humain, là, les télomères dans les cellules, et on va découvrir comment réactiver les cellules pour qu'elles gardent leur jeunesse ou retrouvent leur jeunesse de manière régulière. Oh, peut-être que finalement, le message était déjà vrai dans la Bible, dans la Genèse, et l'alpha et l'oméga se rejoindront, puisque à la fin, ce sera comme au début. L'oméga et l'alpha se rejoignent. On approche de quelque chose d'assez palpable, j'allais dire. On réalise que, veut, veut pas, l'être humain ou l'humanité va approcher d'un changement de règne. On parlait du règne minéral, végétal, animal, hominal, et que ton règne vienne. Quand on disait des prières avec « et que ton règne vienne », on pensait peut-être le règne d'un roi qui se met une couronne sur la tête, mais ça peut être aussi le règne, comme le règne minéral, végétal, animal, hominal, le règne qu'on pourrait appeler de la nature de Christ ressuscité, qu'on a dit être un Christ dans un corps de lumière, un corps glorieux. Et quand il avait parlé avec Marie-Madeleine juste après sa résurrection, quand elle cherchait à lui donner des aromates, la tombe était vide. Elle est sortie de là et elle cherchait partout. Elle a vu un jardinier, elle s'approche du jardinier et elle lui demande « Où l'avez-vous amené? Où est-il allé? » Il lui a dit « Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est encore vivant? » Et là, elle a reconnu sa voix et elle a reconnu que c'était lui. Et là, elle voulait s'approcher. Il dit « Touche-moi pas. L'heure n'est pas venue, tu ne peux pas me toucher. » C'est très étrange, cette fameuse formule de « ne me touche pas ». Ça veut dire « ne me dérange pas, n'entre pas dans mon énergie », parce que lui était dans un corps glorieux, un corps éthérique. Et le règne du corps éthérique est quelque chose qui est annoncé par ceux qu'on appellera des êtres de lumière. Et ça fait aussi partie de cette fameuse approche du phénomène extraterrestre. En ce début de l'année 2015, je pense qu'on doit se faire des vœux de bon aloi, et j'ai l'impression d'une chose, c'est que l'invasion des extraterrestres est débutée sur la Terre, particulièrement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par l'intrusion de plus en plus évidente et massive d'êtres qui pensent vite, qui ont une conscience différente de leurs parents, ceux qu'on va appeler les enfants indigos, les enfants qui s'incarnent et qui sont mus par une nouvelle énergie. Et dans une naissance d'une nouvelle année, il est de bon aloi de faire le parallèle avec cette invasion d'une génération d'êtres qui a un souffle nouveau à apporter à l'humanité et qui ne jouera pas le jeu du capitalisme d'exploitation à outrance. Et puis non, vous allez me dire, il y en a plusieurs qui se perdent dans les jeux vidéo. En effet, d'une certaine façon, ils quittent le monde du quotidien matérialiste où il faut travailler pour gagner son pain à la sueur de son front. Ils se contenteront probablement d'un minimum essentiel, le minimum vital, mais le minimum auquel tout être qui est né sur Terre a droit, comme au soleil, à l'air, à la nourriture et à un certain rôle à jouer dans notre société. Il faut repenser la société, mais pas d'une manière rétrograde, mais foncer droit vers l'avenir. Et on va réaliser que peut-être, grâce au channeling dont tu nous parlais, Pierre-Charles Dubreuil, il y aura peut-être des messages très constructifs pour aider non pas à construire des soucoupes volantes là, de tôle, mais à construire une nouvelle société. Et la semaine prochaine, mon invité, que nous surnommons Jean de Flore, parce que c'est Jean du Québec, mais qui va vivre en Floride, et comme plusieurs Québécois vivent actuellement en Floride, on les appelle les Snowbirds. C'est les gens de la fleur, flore, ça veut dire fleur, la fleur de lys, qui prennent un ride, un voyage vers le sud pour aller en Floride, floor ride, et pour le temps de l'hiver. Et ils reviendront après, quand le beau temps sera revenu ici au Québec. Et Jean de Flore, qui est un spécialiste de prévention du blanchiment d'argent, il voyage beaucoup dans les îles Caïmans et toutes les autres, là. Vous imaginez les lieux où on dit des paradis fiscaux. Il se promène au paradis, lui, là, dans les paradis fiscaux. Je vais lui demander, et l'intention qu'on a en le rencontrant au début de l'année 2015, c'est est-il optimiste quant à l'avenir de la société de demain? Évidemment financier, c'est sa spécialité, mais à tous les autres niveaux dans la société, comment voit-il, lui qui voyage dans différents pays avec des autorités de différents pays pour aider les pays à éviter les blanchiments d'argent et tout ça, comment Jean de Flore voit-il l'avenir du monde? Est-il optimiste? Et toi, Pierre-Charles, en terminant, je te demande ton opinion. Es-tu optimiste? Est-ce que toutes ces recherches que tu as faites dans les livres, les conférences auxquelles tu as assisté un peu partout dans toutes sortes de mouvements, tu te fais appeler le voyageur sur le forum, c'est parce que tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as un côté optimiste? Est-ce que tout ça t'a rassasié un peu, là?
Je dirais que ça dépend où on regarde. C'est un peu comme les journaux ou même le journal télévisé. On nous montre beaucoup les mauvaises nouvelles. Alors qu'elles existent, les bonnes nouvelles, Il paraît qu'il y a un journal qui existe en Russie qui publie que des bonnes nouvelles. Alors, il s'agit de regarder où les choses se passent d'une façon plus positive et surtout être soi-même plus positif. Soi-même, je dirais, envoyer de l'amour, ça a l'air un peu primitif, là,
c'est
mais
il
y a des études, on sait tous qu'il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui méditent dans un quartier. Si un certain nombre de personnes méditent pour la paix, pour l'amour, et qu'ils envoient ça partout sur Terre, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont violents, ça peut aider la société, et je pense qu'on se dirige vers ça. En tout cas, c'est mon espoir.
Et t'es optimiste?
Oui.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
C'est certain.
Parfait. Bien, merci tout le monde d'être à notre écoute, et évidemment, en terminant cette émission, j'en profite en mon nom personnel ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'ésotérisme expérimental que vous retrouvez sur Internet à l'adresse ésotérisme-exp.com ou que vous pouvez rencontrer les samedis soirs de 8h à 9h, juste avant la reprise de cette émission à 22h, à l'émission Le Vidéorandia, qui se retrouve sur YouTube au canal Orandia TV, O-R-A-N-D-I-A TV. Alors, au nom de toute l'équipe de production qui est là depuis les années 1976-77 jusqu'à aujourd'hui, pour vous souhaiter une très bonne, heureuse et sainte année, et le paradis avant la fin de vos jours. À bientôt. Merci, Pierre-Charles.
Merci.